Ah non, franchement, il n'y a qu'à moi qui arrive des trucs pareils, non? C'est pas possible, oh là là. Crever en pirogue, vous imaginez un peu? Vous saviez que c'était possible, vous? Ah bah moi non plus, figurez-vous. Obligé de rentrer à pied. Enfin, plutôt à la nage, oui. On voit pas le bout de se marrer. Et avec les sangsues, bien sûr. Et ces fichus moustiques à la noix. Sale bête. Mais non, pas toi, Pompidou, pas toi. Allez, tais-toi et nage. On est presque arrivé. Enfin, j'espère. Y aller. Ah, putain, il m'a pas loupé, celui-là. Mais moi non plus. Ah ouais, vive les vacances, qu'il disait. Non, je t'en foutrais, moi. Comment la rentrée. Bonjour, je suis Walter Proof. Pour vous aider dans le feu vert, podcast applaudissements.
Je voulais vous demander.
Baroque, dans les abîmes impénétrables.
Salut Walter, ça va?
Il a succombé à une embolie pulmonaire.
Il faudrait d'abord que les molécules.
This is ridiculous.
Bonjour ma poule.
Bonjour à tous et bonjour à toutes.
Alors, la première attitude spéculatoire.
Pardon. Volume 16. Bonjour, je suis Walter Proof. Vous écoutez le podcast de l'inaudible et je vous rassure tout de suite, ça ne fait pas mal. Pas longtemps en tout cas. Ça fait toujours moins de mal que de traverser un marais putride envahi de sangsues et de moustiques. C'est moi qui vous le dis. Ah, sale bête. Ta gueule, toi. Alors, vous avez passé de bonnes vacances? Hein? Vous êtes pas parti? Eh bien, grâce à l'inaudible, vous allez pouvoir en prendre des vacances. Au sommaire de ce volume 16, une problématique de la difficulté de concevoir un mirage de synthèse. Les lectures de Lulu, Jules Duchnouf ou Les paradoxes de la capillarité par Johann Ernst van den Zoutemelk. Les réponses à notre fameux qui a dit parade. Ah, il va y avoir des surprises. Une nouvelle recette de Magali Nassé, la vraie pêche Melba. Un peu de musique, quelques fulgurances, de nouveaux habillages sonores, et oui, et surtout, cette dose d'incoutabilité minérale que vous ne trouverez que dans l'inaudible. Alors, brousouffez vos terminaisons nerveuses, réfrigérez vos intracaudalises expectorales, c'est parti pour de nouvelles réflexions méticuleusement régénérées, pour le plus grand bonheur des amateurs de restrictions fémorales. Saisonnalité du destin n'était qu'une manière de répandre les gènes de la transmigration élémentaire. Y avez-vous déjà songé? Ou non? Vous êtes-vous jamais mis en condition d'envisager cette hypothèse? Ou oui? Si c'est le cas, vous avez sans doute remarqué que le fondamentalisme primordial qui en découle était un obstacle imparable à toute transformation mirobolante du contenu, quel qu'il soit, petit ou grand. Sérieux ou dérisoire, garanti ou dilatoire. Et encore, je ne plaisante qu'à demi, vous l'avez compris. Car alors, point ne serait besoin d'imaginer un contexte transversal pour obtenir une figuration intelligente, ou à tout le moins susceptible de mémoriser les connexions épistémologiques qui sous-tendent toute ouverture contextuelle à un ailleurs prétendu. On a souvent envisagé les conséquences migratoires du réglage métonymique d'une quelconque catégorie allégorique, qu'elle soit primaire, secondaire, élémentaire ou terre-à-terre. Mais a-t-on pour autant réfléchi à ce qu'il adviendrait de ces catégories si elles étaient réduites à minima par l'entourage précaire d'une définition ordinaire, de celle qu'on ajoute machinalement à l'ambiance spectrale d'une journée consacrée à la prodigalité inaltérable de récipiendaires bien nourris. Il en est qui n'hésiterait pas, dans les mêmes circonstances, à reprendre hardiment la méthode pluraliste de répartition des éloges, sans souci excessif de cohérence, vous vous en doutez. Alors qu'en tout état de cause, il faut bien se rendre à l'évidence, ce n'est pas en établissant un programme préalable des originalités réciproques qu'on parviendra au bout de la déperdition d'une situation prémonitoire. Non, non, non! Mais ne pensez pas que mon intention, en établissant ces faits, soit purement contestataire. Non, je dis ça par pure humanité, cela va de soi, et pas dans un quelconque esprit de vengeance bien mal assorti à la structure actuelle de nos initiatives habituelles. Ne craignez pas que je sois dans une disposition d'esprit favorable aux réminiscences pluralistes de ces prétendus intellectuels omniscients. Oh ben là, non alors. Manquerait plus que ça alors. Ah, je ne crois pas à l'autre. Mort de rire. Lulu lit. C'est pas la première fois qu'on vous le lit. Qu'on vous le dit, je veux lire. Je veux dire. Et quand Lulu l'a lu, elle le lit, et elle le dit, et c'est la lu. Oui, c'est la lu. Bref, là. La Lulu a lu Jules du Schnouf ou les paradoxes de la capillarité par Johann Ernst van den Zoutemelk.
Il n'est pire sourd que celui qui n'a pas d'oreille. Ainsi pourrait-on résumer l'essentiel de la philosophie de celui qu'on a surnommé le maître flamand de la capillarité paradoxale, Jules du Schnouf. Cette réputation, il la doit d'abord à son arrière-grand-père, le célèbre chef Sioux ventre affamé. Si quelqu'un n'avait pas d'oreille, c'était bien lui, incapable qu'il était de faire la différence entre le boléro de Ravel et le beau Danube bleu de Mozart. Cela dit, ça le gênait relativement peu dans la vie quotidienne, puisqu'il était végétarien. Ces anecdotes passionnantes et bien d'autres, encore plus navrantes, on peut les découvrir dans « Jules du Schnouf ou les paradoxes de la capillarité », le passionnant ouvrage de Johann Ernst van den Zoutemelk. Johann Ernst van den Zoutemelk, bonjour.
Bonjour, une fois.
Ah oui, j'oubliais de vous préciser, Johann Ernst van den Zoutemelk est en moldovalak. Nous allons sous-titrer cette interview en direct live à l'usage des bègues et des malparlants. Johann Ernst van den Zoutemelk, bonjour.
Bonjour une fois.
Bonjour.
Dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de Jules du Schnouf?
Eh bien, ça est une longue histoire, savez-vous.
Eh bien,
il se trouve que lorsque j'étais petit, Godfordum, j'allais à l'école de la rue Sainte-Catherine, plage de Brouquet.
J'ai fait mes études à l'école, sur une place.
Et la boulangerie à côté de l'école était tenue par un des frères Cuperdonc,
le côté, cadet Edouard. Et à côté, il y avait une boulangerie tenue par un boulanger, forcément. Enfin, je crois.
Et cet Edouard possédait la plus belle collection de porte-clés que j'aie jamais vue.
Et j'y mangeais des crabes en gelée.
Et pourtant, croyez-moi, j'en ai vu des porte-clés une fois. Et du coup, j'ai complètement oublié votre question, Godfordum.
Votre question est trop con, posez-en une autre.
Oui, je vois ce que vous voulez dire.
Plus fort le son, plus fort.
Alors, en quoi, selon vous, la pensée de Jules du Schnouf est-elle contemporaine?
Mais ça est une chose incroyable comme question, savez-vous?
Je vous remercie pour cette question.
Et je vais vous y répondre précisément et avec précision.
Et je vais y répondre, comme je pourrai. J'entends pas grand-chose.
Jules du Schnouf, une fois, essayait comme une sorte d'espèce de truc assez inimaginable, allez.
Voyez-vous, Jules
ça est un peu comme le petit Jésus en culotte de velours qui vous descend dans le gosier.
C'est le petit Jésus, Jules du Schnouf.
Ça est le mannequin de pisse, Jules du Schnouf.
Qui fait pipi dans le gosier.
Oui.
Démontez le retour, j'entends rien.
Oui. Alors, Johann Ernst van den Zoutemelk, comment analysez-vous l'apport de Jules du Schnouf à la recherche sur la capillarité paradoxale?
Allez, écoutez, madame, ça n'est pas compliqué, Gottfordom.
Je vais vous dire...
Si Jules Duchenouf n'avait pas existé, ben, savez-vous, une fois, jamais, vous m'entendez, jamais inventé, des découvertes aussi fondamentales que la gueuse lambic ou la mort subite.
Ou la gueuse serait morte subitement.
Ou le fromage mou en barrique.
Dans une barrique.
Rien de tout ça n'aurait vu le jour. Duchenouf, ça est une sorte de bienfaiteur de l'humanité.
C'est donc un bienfaiteur de l'humanité, Duchenouf. Ah. Putain, j'entends vraiment oui. rien, mais montez ce putain de son, merde.
Bien. Eh bien, Johann Ernst von den Zuntemelk, eh bien, ça a été un plaisir de vous recevoir. Hein. Alors, merci.
Mais ça est moi hein, qui vous remercie, madame, une fois. Ça est toujours un plaisir
oui, voilà,
de parler de Jules Duchenouf. Hein,
voilà. Et si je pouvais avoir un casque qui marche la prochaine fois, ça serait bien quand même.
Ok. C'était bon, là, Coco Il n'y a pas à dire quand même, la capillarité paradoxale, c'est vraiment spécial comme discipline.
Et alors, le Moldovalak, je vous dis pas.
C'est quand même pas ma faute si les corrélations métaboliques ne s'intègrent pas dans l'ensemble fini des équations hormonales. Si ? Bon, alors, on traîne pas parce qu'il y a du boulot. Il y a du boulot avec les réponses au qui a dit parade. Alors, sans plus tarder, on réécoute chacun de nos 15 extraits avec les bonnes réponses.
This is a place for crazy people. I'm not crazy.
We don't use that term crazy, Mr. Cole.
Ah, Mr. Cole, bien sûr, Bruce Willis dans l'armée des 12 singes de Terry Gilliam.
Mauvaise compagne, espèce de morte, de quel corridor ? De quel corridor pousses-tu la porte dès que tu t'endors ?
Oui, la voix est particulière, facilement reconnaissable, c'est celle de Jean Cocteau lisant un de ses poèmes, Mauvaise compagne, en 1923.
Je baisse ta joue et serre tes membres, mais tu sors de toi sans faire de bruit, comme d'une chambre, on sort par le toit.
Tu me parais bien pâle et triste à regarder. Qu'as-tu donc, Hippolyte ?
Je suis bien emmerdé.
Alors ça, c'est aussi un moment d'anthologie. C'était Pierre Dac et ses comparses Fernand Rosena et Odette dans un extrait d'une parodie de Phèdre, écrite par Pierre Dac, bien sûr, et intitulée « Phèdre à repasser ». Forcément, à l'inaudible, on adore.
À l'écouter encore, j'en aurais du malaise. Il y a trop longtemps que t'es ramène ta fraise.
I've seen things.
Le splendide monologue de Roger Hauer à la fin du sublime Blade Runner de Ridley Scott. De quoi rêvent les moutons électriques ? Tiens, on se le demande.
Moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
C'est pas de la violence, c'est de la colère. Je sais pas pourquoi, il y a des gens qui vivent plus ou moins dans l'indignation, dans la colère. Moi, je vis plus ou moins dans l'indignation, et ça ne s'arrange pas.
Ah, du grand, du bon, du beau Jacques Brel. Extrait d'un discorama de Denise Glaser en 1966. Ça ne nous rajeunit pas.
Si on est relativement généreux, je m'excuse de vous interrompre, si on est relativement généreux de quelque part, à tort ou à raison, n'est-ce pas, on passe obligatoirement par des moments de colère.
Bonsoir. Bonsoir, nous sommes ici au coin de la bûche.
L'énorme Pierre Desproges en 1978. Oui, c'était facile, c'était le début d'un très célèbre sketch télévisé avec Thierry Leluron.
Président de la République, normalement c'est Zitrone qui devait avoir cet entretien avec le président. Malheureusement, Monsieur Zitrone a mangé un cheval pendant le réveillon, il s'en est pas remis.
J'essaye d'envisager ce livre... comme un jeu entre le lecteur et moi.
Un rare document sonore sur un écrivain tout aussi rare, de son vivant en tout cas. Il parlait de son dernier roman, La vie, mode d'emploi. C'était Georges Perec.
Pas de fermer autour d'un thème, ou d'une idée, ou de grands mots, ou d'un grand axe, mais qu'il puisse, à l'intérieur du livre, respirer.
Je m'étonne qu'on ne s'étonne pas davantage et qu'on ne s'indigne pas de la destruction de la seule civilisation métaphysique au monde la civilisation tibétaine.
Un autre écrivain dont on a peut-être un peu oublié aujourd'hui l'engagement politique en regard de son œuvre considérable, c'était Eugène Ionesco, invité du journal télévisé d'Antenne 2. En mars 1980.
De peine de mort, mais je trouve que l'on tue de toute façon, qu'il y ait peine de mort ou qu'il n'y ait pas peine de mort, les hommes tuent les hommes.
C'est la première fois que j'ai fait un vrai rôle d'acteur au cinéma et sous la direction d'un directeur d'acteur qui m'a appris beaucoup de choses dans mon métier d'acteur.
Ah, ça, c'était magnifique! Du pur Johnny, du plus vrai que vrai. Et le directeur d'acteur qui lui apprend son métier d'acteur en le dirigeant, comme il dit, et ben c'était Robert Hossein, avec qui il a tourné Point de chute en cette année 1979.
Mais là, j'ai appris en un film avec lui ce que j'aurais pu apprendre en 5 ou 6 films que j'aurais pu faire ou avant ou après.
La troisième mesure à prendre serait d'organiser un cycle spécial.
Ça, c'était plus difficile à trouver, je le reconnais. Il était à l'époque candidat à l'élection présidentielle, et aussi maire de Tours, et aussi bien connu pour ses positions morales très conservatrices. Il s'exprimait devant un parterre d'étudiants bien énervés. C'était Jean Royer, à Toulouse, en 1974, et une étudiante lui avait même montré ses seins pendant ce même discours. Ah oui, on était très gonflés à l'époque.
Et que la multiplication des genres.
J'ai l'impression d'aimer moins le cinéma qu'il y a un an. Uniquement parce que j'ai fait un film et que ce film a plu et comme ça. Alors je souhaite que mon second déplaise énormément et que ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau.
Et alors, qui c'est qui avait comme un petit coup de mou en 1960 Il avait du mal à se remettre du succès de son premier film, Pierrot le Fou. Et il s'en expliquait au micro de François Chalet. Et ben c'était bien sûr Jean-Luc Godard.
Contre lesquels il faut lutter.
C'est quand même très très enquiquinant parce qu'on raconte notre vie. Vous êtes rencontrés quand? Qu'est-ce que vous faisiez?
La vérité.
Alors chaque fois il y a des jeunes mecs qui arrivent comme animateurs. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'aviez qu'à demander à vos parents, mon Dieu.
Ah oui. Un autre des grands maîtres de l'inaudible, celui qui engueule Michel Drucker en 1990, c'est Jean Poiret. Et bien sûr, Michel Serrault n'était pas loin.
La première communion ?
Non, votre première vision. Télévision, c'était quand ?
En 28, 29.
Ça n'était pas animé encore. Il n'y avait pas l'image et ça ne parlait pas encore.
Ça ne parlait pas encore.
La télévision à Galène.
À Galène, c'est ça.
Lurie, deux alciers. Opa, lisez Socrate, lisez Cora Tétus, dos alciers plora.
Alors celui-là, personne ne l'a trouvé, je ne peux pas vous en vouloir, c'est un de ces poètes lettristes qu'on affectionne particulièrement à l'inaudible, c'est Maurice Lemaître en 1959, et son poème s'intitule « La jeune tarentule ». Ah oui, les lettristes, c'est pas triste.
Aruc, Vitali et Plaru, dis alcienne, coron, talentule et borac. Eructacien.
I love the smell of napalm in the morning. Smell! You know that gasoline smell!
Ah, oui, l'odeur du napalm au petit matin. La célèbre voix éraillée de Robert Duval dans Apocalypse Now.
Sit on my face and tell me that you love me. I'll sit on your face and tell you I love you.
Et la dernière, la chanson finale. Eh bien non, ce n'était pas les Marx Brothers. Sit on my face, c'était le Monty Python Flying Circus, bien sûr. Voilà, si vous avez trouvé tout ça, eh bien bravo, vous avez gagné. Simplement, je vais vous dire, vous avez oublié un détail, c'est de poster vos réponses. Ah oui, à ça, je vous promets, ni sur les commentaires, ni par mail, je les ai reçues, vos réponses. Ah. Enfin, celle-là, en tout cas, elle est bonne. Bon, alors, il y en a quand même qui ont joué, et qui a gagné? Qui a posté le plus de bonnes réponses? Eh ben, ça a été difficile de vous départager. Oui, en tout cas, ben, les deux qui ont répondu. Lily et Laurent, bien sûr. Laurent totalise 7 bonnes réponses, et Lily, 8. C'est donc Lily qui a gagné. Mais comme on est vraiment très sympa à l'inaudible, qu'après tout ils sont deux à avoir vraiment joué, eh ben on enverra un cadeau à chacun des deux. Et pas n'importe quel cadeau, je vous avais prévenu, le premier volume de la compilation des mash-ups de Phaéton Bougre, et c'est pas triste. Bon, alors, on joue encore ? Alors, écoutez bien, qui a dit...
On peut tromper mille fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois une... Non, on ne peut pas tromper une fois mille personnes, mais on peut tromper une fois mille personnes.
Oh non, c'est trop facile. Mais bon, c'est la rentrée, faut y aller doucement, on fera plus dur par la suite. Alors tout de suite, vous allez sur le blog de l'inaudible http://www.linaudible.com et vous tapez la réponse avec vos petits doigts musclés dans les commentaires de ce volume 16. La réponse, dans le prochain volume de l'inaudible. C'est un dessert bien connu de nos tables de l'été. Un plaisir apprécié aux terrasses ombragées de nos vacances, un incontournable incontesté, encore qu'incommensurablement incompatible avec les inconvénients de nos inconvenantes inconséquences. Mais savez-vous que ce que vous en connaissez n'est que tromperie et déliquescence ? Il était plus que temps que Magali Nassé intervint pour nous révéler la vérité vraie sur la véritable recette de la vraie pêche Melba.
Bonjour, ici c'est Magali Nassé, votre chef préféré pour une nouvelle recette particulièrement vraie, comme il vous a dit l'autre, la recette de la vraie pêche Melba. Et d'abord, tout d'abord, je vous demanderai d'oublier tout ce qu'on vous a raconté, tout ce que vous avez pu voir, entendre, toucher et manger sous le nom de pêche Melba. Tout ça, il faut le savoir, c'était des conneries, tout un tas de conneries grosses comme ça. Non plus grosses encore, oh oui, au moins comme ça. Alors, moi, Magali Nassé, je vais vous y dire la vérité vraie. Et le plus simple, pour que vous compreniez bien, bande d'andouille, c'est que nous fassions la recette ensemble. Vous verrez bien que ça n'a rien à voir, mais alors, rien du tout, que chi. Donc, pour faire une vraie pêche Melba, il faut se lever de bon matin. Oui, comme pour la bouillabaisse. Sauf que c'est pas de la bouillabaisse, c'est de la pêche Melba. Alors, on se lève vers Poutron minez moins le quart, mais pas plus tard. Vous sortez, silencieusement, hein, pour pas réveiller tout le monde. Parce que si quelqu'un se réveille, ben c'est raté, hein. Il faudra tout recommencer, et on n'a pas que ça à faire non plus. Ensuite, vous sortez le bateau et vous partez vers le large, vers l'endroit que vous avez repéré hier. Ah, ben oui. Parce qu'il faut s'y prendre à l'avance pour repérer les bons coins, hein. Eh oui, ça se fait pas tout seul. Qu'est-ce que vous croyez, bande de fainéants ? Non, mais alors, moi, je vais pas tout vous y dire non plus. Voilà, on y est. Oui, c'est un bon coin, ça. Parfaitement parfait, je dirais, je m'aime. Voilà. Alors, je sors le matériel de pêche. La ligne de 12. Les plombs gyrostatiques à clignotant électropulsatoire. L'arquebuse en rouleur, l'épuisette à manche télescopique pneumatique à basse pression, les appâts, le... Comment ça, il y en a pas ? Il n'y a pas d'appât ? On n'a pas les appâts ? Mais vous pensez à quoi ? Pas d'appât ? Je ne crois pas ça. Pff, oh, vraiment, faut tout faire ici. Moi, je vous jure, mais quelle bande de bras cassés. Oh là 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 là. Bon, on va se débrouiller quand même. Je vais mettre les bas que j'ai apportés, avec la petite jupette, ça va te les attirer les poissons, je te dis que ça. Et hop, j'en ai un. Ouh, joli, hein, une belle dorade. Allez, le temps de changer de plomb et de relancer l'arquebuse. Et voilà. Allez, venez les poissons, venez voir ça. Venez-y. Allez. Non, ça nous plaît les poissons. Et voilà. Pas mal, hein. 6 dorades, 8 loups, 3 soles, 15 maquereaux, 12 cailles à cuire, et quelques crabes mi-crus pour l'apéritif. Un joli pêche, moi je dis. Donc, retiens bien mon conseil, espèce d'andouille, je te l'offre gracieusement et pour le même prix, pour une bonne pêche, mets les bas.
Retrouvez Magali Nassé tous les jeudis dans les pages roses de l'Almanach Vermeaux. On s'écoute un peu de musique ? Ok, Norwegian Wood à la basse, ça vous dit ? Alors on écoute Victor Wooten. Il s'appelle Victor Lemonte Wooten. Il joue de la basse depuis l'âge de 2 ans. À 5 ans, il se produisait déjà avec ses frères, The Wooten Brothers Band. C'est en quelque sorte le Michael Jackson de la basse. En tout cas, un virtuose de la basse comme on n'en avait pas vu depuis... Oh, ou depuis Stanley Clark ou Marcus Miller. Ici à l'Inaudible, en tout cas, on adore. Quand la diversitude existentielle de l'âme se mêle d'une transversalité post-traumatique équivalente, les emmerdes sont pas loin, en général. Et voilà, l'affaire est dans le sac. C'en est fait de ce 16e volume de l'Inaudible, volume de rentrée. C'est toujours un peu dur à démarrer, on tâchera de faire pire la prochaine fois. Pendant les vacances, il y a toujours moins de monde. Vous avez quand même été 74 millions, je veux dire, à télécharger le Kiki a dit parade. Alors maintenant que c'est reparti, vous pouvez revenir. Il y a de la place pour tout le monde. On s'abonne dans la joie sur http://www.linaudible.com. Merci à tous. Merci à ceux qui sont venus de Los Angeles en Californie, de Blida en Algérie, de Rivière-du-Loup au Canada, de Herzogenbourzee en Suisse, de Singapour à Singapour, ou du Chais-sur-Morge dans le Puy-de-Dôme. Bienvenue à ceux qui cherchaient Bruce Willis, Psychopath Magazine, Bart Lisa Sex ou Alizeta Caboret et qui sont tombés sur l'Inaudible. Ah, je sais, ça fait mal, mais ça passe, je vous assure. C'est fini, il n'y en a plus, pleurez pas, il y en aura d'autres. Salut et à bientôt, peut-être.
Ah, oh, bah s'il n'aime pas ça non plus, je n'ai plus qu'à m'en aller.